VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Conakry, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité aux États-Unis et le procès historique en destitution du président Donald Trump à Washington, qui a commencé hier et qui reprend ce mercredi à partir de 18h, temps universel. Le jugement a débuté mardi par une guerre de tranchées entre les défenseurs républicains du chef de l'exécutif et les procureurs démocrates. Ces derniers ont dénoncé ce qu'ils ont appelé des règles de procédure truquées visant à parvenir à un acquittement au pas de charge du président des États-Unis. Les règles du jeu proposées par le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, ont été adoptées au terme de près de 13 heures de débat pour ce troisième procès en destitution d'un président de l'histoire du pays après ceux d'Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1999. Pour Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé d'Afrique, ce résultat était prévisible. On l'écoute au micro d'Abdourahman Dia. Herman Cohen.
Le président du Sénat, c'est-à-dire de la majorité républicaine, le sénateur McConnell, il a ouvertement dit qu'il veut que président Trump soit acquitté, c'est-à-dire sans avoir écouté les arguments, McConnell a dit, pour moi, il est innocent. Donc, il a organisé les procédures pour aider à arriver à cette conclusion qu'il est innocent.
Le démocrate dénonce un peu la procédure qu'il veut mettre en place avec des débats qui vont se dérouler jusque tard dans la soirée. Les démocrates pensent que c'est pour éviter que le public ne regarde les débats et les arguments.
C'est vrai, mais aussi les démocrates croient qu'il faut avoir des témoins. Il y a certains témoins qui n'étaient pas présents pendant les discussions dans la Chambre, mais maintenant ils sont disponibles. Par exemple, M. John Bolton, l'ancien conseiller pour la sécurité, il sera empêché de témoigner et il veut témoigner. Mais il y a un petit nombre de républicains qui risquent de voter avec les démocrates pour changer les procédures. Tout ce qu'il faut, c'est 4 républicains pour changer de place et voter avec les démocrates. Donc, ce n'est pas encore terminé les procédures. Je crois qu'il y aura un grand débat là-dessus.
Également, les avocats du président demandent au Sénat de l'acquitter immédiatement. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça n'a pas de chance d'aboutir, cette requête, n'est-ce pas?
Non, pas du tout. Et ce sera une conclusion que le président est coupable.
Il y aura au moins les débats.
Il faut un débat pour arriver là. Si vous voulez l'acquitter, et quand même, il faut écouter le débat. S'il n'y a pas de débat, il est coupable.
Mais il sera certainement acquitté à la fin, de toute façon, n'est-ce pas?
Il sera acquitté, mais ce sera un problème pour lui dans la prochaine élection. Avec ça derrière lui, qu'il était inculpé, etc., ça va lui faire du tort pour la prochaine élection, à mon avis.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de la décision du président de recruter des avocats très connus à la télévision? C'est une bonne stratégie pour lui?
Oui, c'est pas mal, parce que ça peut aider Trump devant la opinion publique. C'est une bonne idée pour lui, dans ses intérêts.
Herman Cohen, l'ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique, est interrogé par Abdourahman Dia. Afrique maintenant, politique en République centrafricaine, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a accordé mardi une audience à l'ex-chef de l'État, François Bozizé, revenu dans le pays en décembre après un exil de 6 ans. La question de l'attribution du passeport de François Bozizé, rentré en catimini à Bangui le 15 décembre, était au menu des discussions. La régularisation de la situation de certains militaires proches de l'ancien président et exclus des rangs, ainsi que l'examen du projet de loi sur le statut des anciens présidents ont également été abordés. Mais l'entretien de mardi n'a pas répondu aux attentes de l'ancien président, si l'on en croit Bertin Béa, secrétaire général du KNK, le parti de François Bozizé. RCA toujours. Sonnette d'alarme d'OCHA, le Bureau des Nations Unies pour les Affaires Humanitaires. Selon cette agence onusienne, plus de la moitié de la population du pays, soit 2 600 000 personnes, a besoin d'assistance et de protection humanitaire. Et environ 1 600 000 de ces personnes sont en situation extrêmement vulnérable. Irénée Armanoumbo.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Nous passons maintenant à l'Afrique de l'Ouest. Agitation en Guinée, nouvelle manifestation lundi et mardi dans le pays où le FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution, a appelé à une mobilisation à l'échelle nationale également aujourd'hui pour barrer la route à un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Des violences ont été signalées à Conakry, la capitale, et dans plusieurs autres localités hier. Le point avec notre correspondant en Guinée, Zakaria Camara.
Des journées de résistance citoyenne, c'est ce que demande le FNDC à ses militants depuis l'ultime marche du 6 janvier. Mardi, la capitale guinéenne a été partiellement paralysée. Des barricades ont été érigées à Conakry, à mes endroits, sur l'autoroute Le Prince. Selon un communiqué du gouvernement, sept véhicules ont été incendiés. Les autorités guinéennes ont annoncé une persistance des attaques contre les édifices publics. À Dalaba, à 264 km de la capitale, le commissariat central de police a été saccagé, pillé, des armes emportées, la prison civile cassée et 17 prévenus placés sous mandat de dépôt libérés selon le ministère guinéen de la Sécurité. De son côté, le FNDC déplore une dizaine de blessés et plusieurs arrestations. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
La lutte contre les djihadistes dans le Sahel maintenant. Au Nigeria, 7 soldats ont été tués mardi par de présumés djihadistes affiliés à l'État islamique en Afrique de l'Ouest, l'ISWAP. Ces combattants ont attaqué une position militaire dans le nord-est du pays. Les islamistes armés s'en sont pris à un poste militaire dans le village de Maynok, à 56 kilomètres de Maïdougouri, chef-lieu de l'État de Borno, sur la route menant à Damaturu, capitale de l'État voisin de Yobe. Les djihadistes ont emporté 2 camions militaires et 3 mitrailleuses anti-aériennes. Les combattants de l'ISWAP, faction de Boko Haram affiliée au groupe de l'État islamique depuis 2016, visent particulièrement les bases militaires dans toute la région du lac Tchad et à la frontière entre le Nigeria et le Niger depuis la mi-2018. Ces deux dernières semaines, 15 soldats nigériens ont péri dans 2 attaques menées dans cette même zone entre Maïdougouri et Damaturu. Au Burkina Faso, 36 civils ont été tués et 3 blessés lundi lors d'une attaque contre des villages dans la province du San Matenga dans le nord du pays. Le gouvernement parle d'une attaque terroriste et a décrété un deuil national. Bagassi Koura.
Selon le ministre de la Communication, Rémi Fulgence Danguinou, lundi 20 janvier 2020, un groupe armé terroriste a fait irruption dans le marché de Nagraogo et a abattu 32 personnes, brûlé le marché, puis dans son repli a abattu 4 autres personnes au niveau du village d'Alamou. Cette attaque a également fait 3 blessés, précise le ministre. Des centaines de personnes ont fui la zone pour se réfugier dans la ville de Kaya, selon des témoins. La province du San Matenga, située juste au-dessus de la province du Soum, frontalière avec le Mali, de nombreux camps de réfugiés et déplacés internes. Le président Rochmar Christian Kabore a décrété un deuil national de 48 heures allant du mercredi 22 janvier au jeudi 23 janvier. Durant cette période, les drapeaux sont mis en berne sur tous les édifices publics. Les réjouissances populaires, les manifestations à caractère récréatif sont interdites, précise le communiqué du gouvernement. Le Parlement burkinabé a adopté hier à l'unanimité une loi permettant le recrutement de volontaires locaux dans la lutte antiterroriste.
Et toujours concernant la lutte contre les djihadistes, au Niger voisin, 5527, c'est à la date du 21 janvier 2020, le nombre de déplacés internes dans la région de Tillabéri, dans l'ouest du pays, en raison principalement des attaques des positions militaires d'Inates et de Chinegodar. Le bureau de CESC annonce le bureau de coordination des actions humanitaires de l'ONU, OCHA. Et pour terminer, ici aux États-Unis, le procès de Harvey Weinstein commence pour de bon aujourd'hui à New York avec côté défense des avocats décidés à saper la crédibilité de ses accusatrices et côté accusation le soutien du mouvement MeToo qui considère l'ex-producteur de Hollywood comme l'incarnation du prédateur sexuel. Après 10 jours de sélection des jurés au tribunal de Manhattan, place maintenant aux plaidoiries d'ouverture avec 2 femmes en vedette de ce procès ultra-médiatisé, June Urban Uzi, procureur, et Donna Rotuno, principal avocat du producteur de cinéma déchu. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.